Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois de cette série. Si c'est le cas, vous tombez dedans, au milieu de ce texte, qui n'est peut-être pas très très évident. Je ne vous apprends rien parce que vous venez de le voir. L'Apocalypse est caractérisée par l'utilisation de tout ce qui est symbolique. Vous avez déjà vu le chiffre 7 à plusieurs reprises. D'ailleurs, au début de ce livre, il y a les lettres aux 7 églises. Puis après, il y a les 7 sceaux que vous aviez vus si vous étiez là au chapitre 6. Et aujourd'hui, 7 trompettes. Il faut aussi savoir que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament. Quelqu'un a calculé qu'il y a 405 versets dans l'Apocalypse et 280 minimum allusions à l'Ancien Testament. Ce qui fait que si on veut comprendre l'Apocalypse, il faut aussi savoir qu'il y a toujours des allusions à l'Ancien Testament, donc il faut connaître aussi cet Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que l'on voit ? D'abord, j'aimerais souligner quelque chose. Si vous ne l'avez pas vu, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les 7 sceaux et les 7 trompettes. D'abord, parce que dans les deux cas, les 4 premiers fléaux concernent plutôt les choses matérielles, la guerre, le commerce, la famine, la peste, la grêle, le feu, etc. Alors que les deux suivants, donc les 5 et 6, révèlent beaucoup plus les enjeux spirituels. Le cinquième sceau et le sixième sceau concernent les martyrs et la colère de l'agneau, donc l'agneau de Dieu, alors que les cinquième et sixième trompettes concernent beaucoup plus les puissances maléfiques démoniaques que vous avez vues tout à l'heure. Donc les 4 premiers, c'est plutôt matériel. Les deux suivants, c'est plutôt spirituel, au sens large. Et puis dans les deux cas, il y a une parenthèse entre le sixième sceau et le septième sceau, et la sixième trompette et la septième trompette. J'aurais bien voulu vous montrer tout ça sur PowerPoint, mais mon ordi s'est planté cette semaine, donc je dois le faire uniquement avec la voix, comme les apôtres. Mais bon. Donc, entre le sixième sceau et le septième sceau, il y a tout le chapitre 7 qui parle du peuple de Dieu. Et puis, c'est vrai que ça... On t'entend, ça clignote. Entre le sixième et le septième trompette, il y a les chapitres 10 et 11 que nous allons voir la semaine prochaine. Donc il y a une sorte de parallélisme. Et je crois que cela, en fait, nous permet de comprendre une chose... Si on ne vous a pas déjà dit ça, c'est qu'il y a un élément de la structure du livre qui est souligné par cela. Parce que pour moi, en tout cas, tout le temps dans ce livre, il y a 7 sceaux, 7 trompettes, il y a 7 autres choses qui vont venir. Et c'est comme si on arrive à la fin, on dit maintenant ça y est, c'est la fin, ça va être la fin du monde. Puis tout d'un coup, on revient. pour une nouvelle série. Et je pense que le livre se structure de cette façon-là. Chaque fois qu'on dit « ça y est, c'est la fin », non, il y a un autre éclairage qui vient parler de la même époque, de la fin des temps. Entre parenthèses, la fin des temps, pour moi, c'est depuis l'ascension de Jésus jusqu'à son retour. Et c'est comme si on a un éclairage, puis... un autre éclairage, puis un troisième éclairage, où on voit un peu les mêmes événements, pas forcément dans le même ordre exactement, pour que l'on comprenne ce qui se passe pendant cette période. Et aujourd'hui, on va voir tout à l'heure, on va parler de trompettes. Les trompettes sont souvent là pour avertir, et on va voir qu'il y a beaucoup d'avertissements. Alors, avant de parler des trompettes, il faut quand même qu'on parle de ce septième sceau. C'est au début du chapitre 8. C'est un moment très solennel. C'est une version un peu unique en son genre, parce que l'on dit, au début du chapitre 8, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence. d'environ une demi-heure. Silence. J'ai pensé à quelques versets de l'Ancien Testament encore. Je vous en lis deux. D'abord dans Zacharie chapitre 2. Que devant l'Éternel, toutes les créatures fassent silence. Car le voici qui se réveille et sort de sa demeure sainte. Donc ça c'est Zacharie chapitre 2, verset 13 ou 17 selon la version de la Bible. Et puis dans Habacuc 2, verset 20, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et là encore, je pense que c'est quelque chose de solennel qui se passe. Et je pense qu'on peut aussi tirer des leçons pratiques de cela. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre monde dès qu'il y a un moment où on n'est pas en train de travailler, et encore, parfois quand on est en train de travailler, on remplit de bruit. Hein? Dès qu'on rentre dans la RER, on écoute quelque chose, on écoute la musique, on allume, il y a des gens qui allument la télé dès qu'ils arrivent dans la maison, et que ça continue. Hein? J'ai fait des visites pastorales dans mon église, on était, je me souviens, j'ai passé 3 heures. Il y avait ma femme, une autre femme, moi et la télé. Pendant toute la soirée. C'était comme ça. Et là, non, on fait silence devant Dieu. Pour qu'on puisse, je pense, d'une part réfléchir et penser à sa grandeur. Et c'est à ce moment-là que l'on commence à mentionner les 7 trompettes, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vient d'abord, qui empêche un petit peu les trompettes de sonner tout de suite. Ce sont les prières de tous les saints. C'est comme si, d'une part, ça empêche les trompettes, tout en provoquant, au verset 5, des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et là encore, c'est important de s'arrêter deux minutes. L'Apocalypse n'est pas une sorte de livre de jeu que l'on achète au relais, à la gare, pour occuper son temps pendant le voyage. C'est pas comme une sorte de sudoku, je sais pas quoi, où il faut chercher tous les chiffres, essayer de les déchiffrer et regarder page 135 et vous allez trouver les réponses. C'est pas ça. L'Apocalypse a été écrite pour une église, au début, hein, persécutée. Et cette église qui a été persécutée tout au long des siècles. Et d'ailleurs, au XXe siècle, c'est certainement le siècle qui a vu le plus de martyrs depuis le début du christianisme. Des millions. Et donc, l'Apocalypse de Jean a été envoyé à des églises persécutées, de l'Empire romain. La même leçon pour toutes les églises depuis, c'est que il y a deux réalités. Il y a la réalité visible du monde, avec les grands de ce monde, avec les puissances, les présidents, les rois, tous ceux qui semblent avoir énormément de pouvoir pour emprisonner, pour tuer, pour interdire, au nom de je ne sais pas quoi, toute liberté. Et puis, on voit tout le temps des petites allusions. Mais il n'y a pas que cette réalité-là. Il y a la réalité du Dieu qui est souverain. Il y a plusieurs reprises, d'ailleurs, dans ce texte que vous avez lu ce soir. Il y a des petits mots tels que « Il leur fut donné d'eux ». Dieu a permis cela. Et ici, on a une autre réalité. On a les pouvoirs de ce monde, les autorités humaines, et la deuxième réalité, la prière des saints, qui ne semble pas grand-chose. Qu'est-ce que ça change? On nous demande de prier pour les autorités. Il y a des élections municipales qui vont se passer dès ce dimanche. Qui décide? Oula, sur les urnes ou la prière? Ou les deux? Comment ça se passe? Dans ma vie, c'est un peu spécial, hein, parce qu'il y a déjà 2 listes socialistes, 2 listes modem, enfin, c'est pas facile de se retrouver. Chacun réclame la légitimité de la vraie. Il faut que je prie pour savoir pour qui voter, mais il faut que je prie aussi pour les autorités. Et quelque part, je pense que ce genre de prière a peut-être plus d'effet qu'on peut penser, à toutes sortes de niveaux dans notre société. Il y a ce qui est visible et ce qui est invisible. Et les prières des saints, donc les saints, ce sont les chrétiens, ceux qui appartiennent à Dieu, ont aussi leur place. C'est aussi réel que ce qui est visible. Voilà, donc c'est le septième saut. Maintenant, on arrive dans toute une série de trompettes. On n'a pas le temps, et puis ce serait trop long, de faire un commentaire sur chaque verset et chaque mot de chaque verset. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dégager quelques grandes lignes de ce qui semble important dans ce texte. Et puis, quand on voit les quatre premières trompettes qui concernent la vie matérielle, comme je disais, hein, on parle au verset 7 de la terre qui fut brûlée, des arbres, l'herbe verte, le tiers. C'est une façon de dire beaucoup, mais même pas la majorité. Et puis, une montagne embrasée, la mer, et puis, verset 10, les fleuves, les sources des eaux, verset 12, on parle du ciel, de la lune, du jour, de la nuit. Mais je pense qu'il faut toujours chercher pourquoi on parle de grêle et de feu. Pourquoi on parle de mer qui devient comme le sang? Pourquoi on parle de l'obscurité? Est-ce que c'est littéralement vrai? Peut-être, en partie. Mais aussi, ce sont des allusions à cet Ancien Testament dont on a parlé tout à l'heure. Parce que tout au long de ces sept trompettes, il y a des allusions à quoi? Aux dix plaies d'Égypte. En Égypte, par exemple, je vous lis quelques versets, de mes références surtout, si jamais vous prenez des notes, c'est bien de prendre quelques notes, surtout quand on n'a pas de PowerPoint. Exode 9 et les versets 22. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte. » Sur les hommes, sur les animaux, sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. Ça, c'est la première trompette, hein, grêle et feu. Deuxième trompette, versets 8 et 9, je vais vous lire quelques versets dans Exode 7. Exode 7 et les versets 20 et 21. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon, sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il y eut du sang dans tous les pays d'Égypte. Bon. Ça, c'est la seconde trompette. Et puis, la quatrième trompette, par d'obscurité. Exode 10. Étends ta main, dit l'Éternel à Moïse, vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sous le pays d'Égypte, qu'on puisse les toucher. Et Moïse étendit sa main vers le ciel. Et il y eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. Donc, 3 des premières trompettes, les 4 premières trompettes, évoquent les plaies d'Égypte. Alors pourquoi? Est-ce que c'est simplement parce que c'était une vieille histoire? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Hein, c'était le moment où Moïse, si vous ne connaissez pas l'histoire, je raconte rapidement, Moïse était juif, faisait partie du peuple d'Israël, et Dieu lui avait demandé d'aller voir le roi d'Égypte, le pharaon, pour lui demander de laisser sortir son peuple. Let my people go. Ça, c'est connu. Hein? J'arrive à le prononcer assez bien. Mais chaque fois, Pharaon a dit, ou presque chaque fois, oui. Il a vu ce qui s'est passé. On ne peut plus tenir comme ça. Et dès que la plaie s'est arrêtée, il a changé la vie. Il s'est endurci le cœur jusqu'au point où finalement c'est Dieu qui lui a endurci le cœur. Autrement dit, les avertissements que Dieu avait envoyés par Moïse et son frère Aaron, c'était un appel à la repentance. Et on va revenir à ça tout à l'heure. Mais j'aimerais dire déjà, pour que l'on comprenne bien le mot repentance, le mot repentance, si on analyse bien en grec, veut dire changer d'avis, pas plus. Changer d'avis. On pensait une chose, on change d'avis pour penser autre chose. C'est ça le sens de se repentir. Mais, je n'ai pas encore parlé de la troisième trompette, là, les grands théologiens, les commentateurs cherchent quelle est cette grande étoile ardente comme un flambeau qui tombe. Il n'y a pas beaucoup d'accord, ils ne savent pas trop de quoi il s'agit. Donc je ne vais pas vous donner la bonne interprétation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est passé, c'est que cette étoile qui s'appelle Absinthe est tombée, ce qui fait que l'eau devenait imbuvable. Vous savez que l'absinthe, c'est une plante hein, qui a donné un alcool terrible, qui a fait beaucoup de ravages au 19e siècle en particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le musée d'Orsay, il y a un grand tableau de dégâts qui s'appelle le buveur d'absinthe, et on voit quelqu'un qui est en train de se déglinguer complètement. C'était horrible. C'est très amer, très amer. Donc l'eau devient amère. Et ça fait partie de ces fléaux des sept trompettes. Une petite parenthèse, parce que en ce moment, même dans notre église, on fait toute une série sur l'Apocalypse, et de temps en temps, les gens disent, mais c'est horrible tout ça, tout ce qui se passe. Comment on tient que ça me donne des cauchemars. Est-ce que c'est littéral? Est-ce que et même si c'est pas littéral, c'est horrible ce qui va se passer. Et donc là, j'aimerais faire une petite parenthèse. C'est pas dans le texte, mais je pense que c'est utile de se le rappeler. Deux textes de l'Ancien Testament qui ont un rapport avec ces quatre premières trompettes et qui sont d'un grand réconfort pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Le psaume 46 et le verset, à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Donc la même image de mer, de montagne qui tombe dans la mer, non? C'est pourquoi nous sommes sans crainte. On fait confiance à Dieu. Et puis, un autre verset de l'Ancien Testament, dans Ésaïe 54, le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Même chose, les montagnes qui s'éloignent. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Chapitre 8, dernier verset. Une voix forte qui dit, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Et ces trois malheurs, ce sont les trois trompettes suivantes. Alors, les habitants de la terre, c'est qui? Dans l'Apocalypse, les habitants de la terre, ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens. Par exemple, chapitre 6, verset 10, les martyrs crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître Saint véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Donc, quand on entend « habitants de la terre », ça veut dire ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, encore des malheurs. Et je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, dans Les deux trompettes suivantes, ce sont des grandes épreuves spirituelles. Et là, le chrétien peut faire confiance à Dieu. Ce qui arrive sur le plan matériel, il est un peu solidaire avec les autres. Hein. Ce qui se passe sur cette terre, un volcan qui fait éruption, on est solidaire. Tout le monde y passe. Presque. Parce que j'ai passé une semaine en Martinique au début du mois. C'est assez intéressant. Il y avait un grand volcan qui a fait éruption. 30 000 personnes à Saint-Pierre mortes en 8 secondes, en 1905. Une seule personne était sauvée. Et c'était... Il n'y a pas de justice. C'était un criminel endurci qui était au fond d'un cachot dans la prison. Bon, je ferme la parenthèse. Non. Donc, quand il s'agit d'événements comme un volcan qui fait éruption, les chrétiens qui se trouvent là ne sont pas forcément épargnés. Mais quand il s'agit de choses spirituelles, là, on peut nous réfugier en Dieu. Ce qui est le cas, je pense, pour la cinquième trompette et la sixième trompette. Alors, la cinquième trompette, c'est encore un rappel des fléaux d'Égypte. Parce qu'on parle de ces sauterelles qui sortent de l'abîme, et l'abîme qui représente, toujours dans les Écritures, la demeure de tout ce qui est démoniaque. Hein. Quand Jésus a chassé des démons à un certain moment, ils ont dit non, ne nous obligez pas de retourner dans l'abîme. Puis ils sont partis dans un troupeau de pourceaux à ce moment-là. Mais ce qui sort de cet abîme, sont comparés à des sauterelles, et dans les plaies d'Égypte, on parle encore, Exode 10, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Et Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, toute cette journée et toute la nuit. Et quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait porté les sauterelles. Et les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvraient la surface de toute la terre. La terre fut dans l'obscurité. Elles dévoraient toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs dans tous les pays d'Égypte. Donc on parle encore de ces sauterelles qui arrivent. Alors, qui sont ces sauterelles? Qu'est-ce qu'il faut penser? D'abord, comme j'ai dit, ces sauterelles représentent quelque chose de diabolique, parce que ces sauterelles sortent de la fumée, qui sortait de la grande fournaise, qui sortait du puits de l'abîme. Deuxième chose qu'il faut dire sur les sauterelles peuvent aussi représenter autre chose. Parce que à plusieurs reprises dans la Bible, je pense notamment par exemple au prophète Joël, on compare les sauterelles à des chevaux. Bon, on dit, mais pourquoi comparer une sauterelle et un cheval? Mais c'est tout simple, parce que, en fait, quand on regarde une tête de sauterelle, il y a quand même une ressemblance quelque part à un cheval, hein. Je sais pas. Bah oui. C'est un peu long, il y a une sorte de museau. Ah, la semaine prochaine, je vous apporte une image d'un cheval, hein, vous allez voir. Vous êtes des Parisiens, vous voyez jamais des chevaux. Non, il y a quand même une certaine ressemblance. Il y a ce carré, c'est bon, rectangulaire. Hein, bon. Okay. Alors, au fur et à mesure que cette description des sauterelles continue, c'est comme si les sauterelles se transforment un petit peu plus en chevaux, et les chevaux se transforment en armées. Donc, c'est un peu la guerre. C'est la destruction, pas la guerre. On parle voilà, verset 7. Ces sauterelles ressemblent à des chevaux préparés pour le combat. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est de moquer de moi, mais c'est dans le verset 7. Hein. Avec des cuirasses et la chef de ces sauterelles chevaux guerriers, c'est le roi, l'ange de l'abîme, qu'on appelle en hébreu Abaddon, c'est le verset 11, et en grec Apollyon, qui veut dire Abaddon, destruction, et Apollyon, destructeur. Et je crois que là encore, c'est quelque chose de très important qu'il faut se rappeler sans cesse, quand on parle de tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est diabolique. C'est que tout ce qui vient de Satan est destructeur. Je pense à Jean 10, qui parle du bon berger. Et où Jésus dit que le voleur, celui qui essaie de rentrer dans la bergerie, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est relativement facile de détruire quelque chose. C'est beaucoup plus long de construire. Je me souviens, il y a plusieurs années, mes enfants étaient encore petits, on regardait par la fenêtre de notre salon, et un jour, on ne savait pas que ça allait se faire. Il y avait une grande maison en face, et des engins qui sont venus, une grande grue, et puis avec une boule en métal, ils ont commencé à détruire la maison. En une matinée, moins d'une matinée, c'était fait. Ils ont déblayé, et après, à la place, ils ont construit un immeuble. Ils ont mis plus longtemps pour construire l'immeuble que pour détruire le grand château qui était là. Et ça, c'est important à se rappeler, parce qu'on peut très très facilement faire le jeu de Satan, en quelque sorte, en détruisant, alors que construire, c'est quelque chose de très biblique. Dans le temps, peut-être parce que c'est un mot biblique, mais dans le temps, c'est un mot qu'on utilise beaucoup moins maintenant, les gens disaient dans les églises de temps en temps, il va y avoir une réunion. Ok? Alors, je dis, est-ce que c'est une réunion d'évangélisation, une réunion d'édification? Voilà, quel moment. L'édification, ça veut dire quelque chose qui construit comme un édifice. Et dans la parole de Dieu, on dit que nous sommes un édifice. Éphésiens 2, en Christ, tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ce temple saint, c'est nous. C'est quelque chose que l'on doit construire personnellement, collectivement, dans nos églises, jour après jour, semaine après semaine, mois, après, année après année. Toujours construire. C'est beau. C'est beau quand on construit. Et le diable, lui, il veut détruire. Notez aussi, dans cette sixième trompette, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu reste aussi souverain. Il est souverain. Verset 3. Des sauterelles sortirent de la fumée, il leur fut donné un pouvoir. Verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Vous vous rappelez, au chapitre 7, donc c'était ceux qui avaient mis leur confiance en Dieu, les chrétiens, si on veut en termes aujourd'hui, qui avaient le sceau. Alors, ils étaient marqués, et maintenant donc, ceux-là ne peuvent pas être touchés. Dieu reste maître de tout ce qui se passe. Il y a des choses horribles qui se passent. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi Dieu permet tout cela? Une question que l'on pose souvent. Mais il y a ici au moins, on le voit tout au long, un but, les trompettes qui avertissent, tout comme les 10 plaies d'Égypte, c'est dans un but, c'est amener à la repentance. Et cela, on voit le plus clairement quand on arrive au chapitre 9, à partir du verset 13, la sixième trompette. Encore une destruction terrible, terrifiante, avec quatre anges liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. J'ai lu dans un livre, il disait, voilà, maintenant ça devient transfrontalier, donc ça concerne le monde connu. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Donc tout est prévu. Destruction horrible dans au verset 16, deux myriades, en nos termes à nous, c'est 200 millions. 200 millions. C'est quoi? Plus de trois fois la population de la France. Qui est donc cette armée destructrice cause la mort, à la différence des sauterelles qui n'avaient causé que la souffrance. Et là encore, je me rappelais la raison pour laquelle l'Apocalypse a été écrite. C'est pour encourager les persécutés. Un verset que j'aime beaucoup d'ailleurs, dans 1 Pierre 4 et le verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. » C'est 1 Pierre 4 et le verset 12. Ne vous étonnez pas. C'est normal que les choses ne vont pas dans ce monde. C'est normal. C'est un monde qui est en révolte contre Dieu. Le chrétien est appelé continuellement à faire ce qu'il peut pour être le sel, donc ça veut dire pour ralentir en quelque sorte la décomposition, merci. Pour ralentir la décomposition, on est appelé à essayer d'être des personnes de paix, qui cherchent à apporter la paix. Mais il ne faut pas s'étonner quand les choses vont mal. Je me souviens, il y a un certain nombre d'années, quand j'étais encore à Nancy, en tant qu'église, on avait pas mal aidé à tout un groupe de réfugiés d'un certain pays. Mais on savait très bien que les meubles qu'on leur apportait, que les vêtements qu'on leur apportait, ils revendaient, avaient un peu plus d'argent, et puis il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait avec d'autres meubles, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il fallait dire non, on ne le fait pas. On essaie, en tant que chrétien, d'apporter quelque chose dans ce monde, être le sel de la terre, la lumière du monde. Mais en même temps, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ça peut arriver, et on n'a pas le droit de dire, c'est pas juste. C'est prévu. Et tout cela, tout ce qui était un petit peu en filigrane, qui était suggéré jusque-là, on le lit en toutes lettres quand on arrive aux deux derniers versets du chapitre 9. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Donc on voit que toutes ces allusions aux plaies d'Égypte nous avaient préparé pour cette conclusion, que Dieu, par ces événements, cherche à ce que des personnes se repentent. Et en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Je pense que c'est important pour nous de nous dire que la repentance fait partie de la vie des chrétiens. Il est tellement facile dans notre monde d'aujourd'hui de dire, oh, les gens, oh là, ils se convertissent pas très très facilement, donc ne leur demandons pas trop, parce que à ce moment-là, ils risquent d'aller voir ailleurs. Je le comprends. Il faut accompagner les gens. C'est pas pour les charger inutilement. Mais quand on voit les premières paroles de Jean-Baptiste, les premières paroles de Jésus, les paroles de Pierre à la Pentecôte, c'était toujours « Repentez-vous et croyez », les deux choses. Changez d'avis. Ce qui semblait normal avant, tout d'un coup on dit « Mais c'est pas normal ». Ce que tout le monde faisait, et on disait « Mais puisque tout le monde fait, c'est normal », tout d'un coup on dit « C'est pas normal ». Pourquoi ce n'est pas normal ? Moi, j'aime beaucoup, en fait, rappeler à ce moment-là que ce qui était annoncé tout le temps, pratiquement toujours d'ailleurs, par les apôtres, d'une façon ou d'une autre, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans mon église, on a cherché un petit peu comment appeler quelqu'un à la repentance aujourd'hui. Parce que si on dit « il ne faudrait pas faire comme cela », la personne risque de dire « mais toi, tu n'es pas très tolérant » ou « tu te permets de faire des remarques comme ça », etc. Ce n'est pas par rapport à nous. C'est par rapport à Jésus qui est le Seigneur. Et on a trouvé une façon très simple de le dire. Vous allez me dire « ok, pour la Sainte-Saint-Denis, ça va ». Mais je crois que quand même, pour nous tous, c'est important. C'est « Jésus-Christ est Seigneur ». Il a vécu une vie parfaite. Il nous dit ce que nous devons faire. Si tu ne le fais pas, tu es mal. Ce n'est pas par rapport à moi. Ce n'est pas par rapport à nous, chrétiens. C'est par rapport à Jésus, qui est le Seigneur. Et quand on dit « Ah, là, il faut que je change de façon de faire », c'est parce qu'on a compris que Jésus est le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui crée un corps comme le nôtre. Et on se dit « il faut que je cesse, que je renonce à certaines choses. » En particulier, d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Bon, là, vous pouvez dire, ok, ça, au moins ça, je ne fais pas. Colossiens 3, verset 2 nous dit, la cupidité, c'est l'idolâtrie, ou la soif de posséder, je crois que c'est marqué dans le sommaire. Voilà. On est dans un monde qui propose sans cesse des choses à posséder. Et même quand on a ce qui semble devrait nous suffire, on propose encore autre chose. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. De leur meurtre. Quand je me suis converti, c'était une soirée d'évangélisation organisée par un GBU. Et puis, c'était sur les 10 commandements. Et puis, il y avait un orateur qui est venu. Et au début, il commençait à dire, voilà, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et je commençais à dire, c'est dommage que mes amis ne sont pas venus. Et plus il continuait, plus je disais, c'est moi. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais coupable devant Dieu, en fait, de tous les 10 commandements, en parole, en pensée ou en acte. Parce que Jésus nous dit, en Matthieu 5, que celui qui se met en colère contre son frère, c'est comme s'il commet un meurtre. Et je pense qu'on peut le reconnaître, parce que parfois, on peut être tellement en colère, que moi je me dis, je ne le cache pas, si à ce moment-là j'avais eu la l'arme à la main, peut-être j'aurais été tenté d'appuyer sur la gâchette. Heureusement, je ne l'avais pas. Je n'habite pas en Amérique. Les enchantements, ça veut dire quoi? Toute pratique magique. Et qu'est-ce qui est magique? C'est lorsqu'on essaie, par exemple, d'influer sur le cours des événements de différentes façons, toutes sortes de sorts ou je ne sais pas quoi que l'on peut jeter. Voilà. Peut-être plus répandu qu'on pense. Hein. Je pense à un frère de mon église qui travaille en tant que policier, et le chef faisait des choses qui ne la déplaisaient pas. La moitié de la brigade est allée voir un marabout pour jeter au sort ce chef. Ça, c'est notre police nationale. En France, en 2007, à l'époque. Mais, quand on dit on veut influencer les choses par la magie, ça veut dire aussi, attention, même si on est chrétien, est-ce qu'on essaie de manipuler Dieu? Si je lis les deux chapitres du calendrier de lecture que j'ai vu tous les jours, là Dieu va être obligé de me bénir. On n'est pas loin parfois de vouloir manipuler Dieu. Hein? Je fais tout ce que tu veux, alors à ce moment-là, tu dois me bénir. Se repentir de la débauche, l'immoralité. Je ne sais pas pour les filles, mais j'ai lu récemment, pour les gars, que 40% de la population française a déjà été sur un site porno. Sur Internet, 40%. Donc ça veut dire pratiquement la moitié. Et si c'est un problème, moi je commence à me dire de plus en plus, même dans les milieux chrétiens, s'il y a un problème, il faut aller le dire à quelqu'un. Parce que c'est tellement facile. Tellement facile. En tout cas, chez moi, je ne cache pas tous mes sites. Je sais que ma femme peut aller regarder à n'importe quel moment sur quel site j'ai été. C'est une sorte d'accord entre nous. Et se repentir de leur vol, donc toute malhonnêteté. Là encore. C'est pas si facile, hein, dans notre monde, de rester complètement honnête. De ne pas utiliser le photocopieur de l'entreprise ou je ne sais pas quoi. Par exemple. Mais, on n'en est pas là pour le moment. J'ai fait cette application pour les chrétiens. Mais d'abord, il faudrait faire cette application pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui ne l'est pas. Donc, ça veut dire qu'il faut changer d'avis. Et si on change d'avis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne voulais pas rester là avec ces versets à la fin du chapitre 9. Je préfère terminer avec un verset qui nous dit tout autre chose et qui est un très grand réconfort, en utilisant pratiquement d'ailleurs les mêmes termes que dans Apocalypse. C'est la première lettre de Paul aux Corinthiens. Corinthe, c'était une ville assez débauchée aussi. Au verset 9, 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, » il va faire toute une liste, hein, pour dire qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, donc ils n'auront pas la vie éternelle. Qui ? Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, donc déclarés justes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Et même si cela n'est pas pour le moment dans l'Apocalypse, c'est dans d'autres chapitres, mais puisqu'on termine là ce soir, je ne voulais pas le terminer sans dire que si quelqu'un change d'avis, si quelqu'un se repent et le dit à Dieu, il est pardonné parce que Jésus est mort à la croix à sa place. Il a déjà pris ce châtiment sur lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut se repentir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le pardon. Jésus est venu, il a dit, non pas pour les bien portants, mais pour les malades. La mauvaise nouvelle, c'est lorsque le médecin vous dit, « Monsieur, vous avez telle ou telle maladie. » La bonne nouvelle, c'est qu'on dit meilleur médicament. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes pécheurs, et il faut le reconnaître. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le pardon à celui qui se repent et place sa foi en Jésus. Voilà. Deux chapitres qui appellent à la repentance, mais n'oublions pas que pour le chrétien, la repentance est quelque chose de très positif, parce que c'est une porte qui s'ouvre vers la grâce.